Commencez par regarder le passage de Romains, le chapitre 15, le verset 5, où nous avons commencé par regarder deux caractéristiques de notre Dieu. Nous n'avions pas fini la dernière fois et je souhaiterais ce matin donc continuer et finir par rapport à ce message. Romains, le chapitre 15, juste relire le verset 5 qui était le texte de base de cette étude que nous avons commencé la dernière fois. Romains, chapitre 15, le verset 5, où nous lisons « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres en Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'était donc le passage et la dernière fois, nous avions regardé la première caractéristique de notre Dieu que ce passage soulève, à savoir que le Dieu de la Bible est le Dieu de la persévérance. Et dans ce sens, nous avions vu trois domaines dans lesquels le Dieu de la Bible est un Dieu de persévérance. Vous voyez, ce monde, malgré sa rébellion, malgré son péché, n'est pas lâché par Dieu parce que Dieu persévère à pourvoir à ses besoins. C'était là le premier point que nous avions vu. Et le deuxième, ce monde, malgré sa perversité, malgré sa rébellion, n'est pas lâché par Dieu parce que même aujourd'hui encore, Dieu continue pas à envoyer de fidèles messages, de fidèles messagers, de fidèles serviteurs, de prédicateurs qui portent ce message. Et le dernier point que nous avons vu, c'est que Dieu persévère à aimer ses enfants, même désobéissants. Et nous avions regardé le cas de Pierre, qui trois fois a nié le Seigneur, mais le Seigneur ne l'a pas pour autant lâché. Nous avions regardé le cas aussi de Paul, pas de Saul, mais de Paul, qui disait, mais le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je veux, je le fais, misérable que je suis. Et nous avions vu par rapport à ça la différence entre Judas dans son péché et Pierre dans son péché. Vous voyez, Judas, il a réalisé que, en fait, il a péché, que ce qu'il a fait est répréhensible, mais il s'est trouvé sa solution à lui, c'est-à-dire qu'il s'est donné la mort. Mais Pierre, lui, est retourné à Dieu. Et c'est là la différence entre ceux qui connaissent Dieu et les autres. Le péché de Judas n'était pas plus grave que celui de Pierre. Mais Pierre, lui, il est retourné au Seigneur. Et Judas, lui, s'est donné la mort. Donc voilà ce que nous avions vu par rapport aux caractéristiques donc de Dieu, à cette caractéristique selon laquelle le Dieu de la Bible est le Dieu de la persévérance. Et ce matin, nous allons voir donc le deuxième point, à savoir que le Dieu de la Bible est le Dieu de la consolation. Et j'ai regardé rapidement ce que le dictionnaire, le petit Robert, dit par rapport à ce mot « consolation ». Et j'y ai lu que la consolation, c'est le soulagement qu'on peut apporter à quelqu'un qui est en proie à une épreuve, qui est en proie à la douleur, qui est en proie à la peine. Donc, quand on parle de consolation, et cela sous-entend une situation qu'on ne choisirait pas de façon agréable, cela sous-entend une situation, pourquoi pas, d'adversité. Et les Écritures nous disent que le Dieu de la Bible est le Dieu de persévérance et de consolation. Et dans ce sens, nous verrons également un certain nombre de points qui attestent que le Dieu de la Bible est le Dieu de la consolation, un certain nombre de points qui doivent être pour les enfants de Dieu un encouragement, un apaisement. Et en 2 Corinthiens, le chapitre 1, et à partir du verset 3, voyez, nous voyons les Écritures qui disent la même chose. Là, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et Dieu console dans l'affliction. Oui. Un petit lien entre cette définition générique et ce que nous voyons ici, et on peut s'accorder pour dire que quand on parle de consolation, c'est dans une situation que de façon spontanée, qu'avec plaisir, nous ne choisirions pas. Oui. Mais même là, Dieu est le Dieu de la consolation. Et dans ce sens, le premier point que j'ai noté et qui atteste que le Dieu de la Bible est un Dieu de consolation. Le premier point qui apaise les enfants de Dieu lorsqu'ils savent que le Dieu de la Bible est un Dieu de consolation, c'est le fait que les événements qui se déroulent dans ce monde, les situations par lesquelles nous passons, ne sont pas des choses qui sont étrangères à notre Dieu. Et cette connaissance apaise les enfants de Dieu. Notre Dieu est souverain dans tous les événements de ce monde. Vous connaissez bien ce passage de Lamentation, le chapitre 3, le verset 37, voyez, qui nous dit ceci: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Est-ce qu'il y a une seule chose qui peut arriver et qui ne soit pas par l'ordre de notre Dieu? Oui, ça, c'est ce que ce passage nous dit. Il n'y en a pas. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est de sa volonté que viennent les maux et c'est de sa volonté que viennent les biens. Oui. Et cette connaissance nous apaise, oui, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous savons que tout est selon son plan. Nous savons que tout est selon son dessein arrêté. Et nous lisions tout à l'heure dans le psaume 33 que c'est lui, il dit et la chose arrive. N'est-ce pas? Lui, il ordonne et elle existe. Et même lorsque les hommes font leur plan, si Dieu le veut, il renverse ses projets, il renverse ses plans. Nous l'avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc c'est véritablement notre Dieu et qui est aux commandes. Il est le patron. Et il est véritablement souverain dans tous les événements. Et Paul a dit la même chose en Romains. Et là même, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si c'est dans la prière, mais le frère Philippe tout à l'heure a cité ce passage. Mais toutes choses, c'est toutes choses. Les choses que nous aimons et les choses que nous n'aimons pas. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Voyez. Dans toutes ces choses, notre Dieu est souverain. Ce sont des vérités que nous connaissons, ne serait-ce que mentalement, mais dans la réalité, nous avons tendance à ne pas toujours vivre conformément à ces vérités. Et lorsque nous sommes en proie à certains événements ou lorsque nous regardons le monde, des fois, on est tenté de se demander si réellement Dieu il existe. Et alors, si Dieu existe, est-ce que il est vraiment maître de tous ces événements qui se passent? Si Dieu existe, est-ce que réellement il continue pas à s'intéresser aux événements dans ce monde? Oui. On est parfois tenté de poser ces questions, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des questions qu'ils posent régulièrement. On dit, si Dieu existait, comment est-ce que telle chose pourrait arriver? Ou des gens qui sont sous l'écoute de la parole de Dieu depuis un certain nombre de temps, parce qu'un événement inattendu et désagréable survient, disent, mais si c'est ça ce Dieu, je ne l'adore plus. Oui. J'ai connu un couple à qui des hommes ont promis évidemment si elle était, donc ils ont menti sur le compte de Dieu. Et ce couple est venu s'asseoir pour écouter l'évangile. Et c'est pendant que ce couple, jour après jour, écoute l'évangile, que leurs enfants, les deux jumeaux, sont décédés. Il dit, mais nous, on était encore loin, et puis des événements de ce genre, on ne le vivait pas. Maintenant, nous venons, nous nous asseyons, nous écoutons la parole de Dieu, et nos enfants meurent, et on veut nous dire que le Dieu de la Bible est le Dieu souverain qui permet ces choses-là. Ah, si c'est lui qui permet de telles choses, là, nous n'allons plus l'adorer. Vous voyez? parce que nous ne pouvons pas comprendre, voyez, que Dieu nous aime et qu'il permette que nos deux jumeaux, les deux enfants que nous avons meurent en même temps. Voyez. Et ces réflexions, nous les avons fréquemment de la part des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous, nous savons que notre Dieu est véritablement maître dans tout ce qui se passe. Et les enfants d'Israël pouvaient nourrir une telle réflexion quand ils étaient en proie à la servitude en Égypte, par exemple. Parce que vous savez qu'après la mort de Joseph, et il y a eu sur l'Égypte un pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui est bien méchant, et qui a fait subir beaucoup d'humiliation, qui a fait subir la servitude véritable aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ployaient sous cette servitude. Et dans une telle situation, ils pouvaient se dire, mais est-ce que Dieu vraiment existe? Et si Dieu existe, est-ce que véritablement il s'intéresse à nous? S'il existe, est-ce que réellement notre situation lui dit quelque chose? Et par rapport à une telle réflexion, voyez, nous voyons Paul, toujours dans Romains, qui, faisant référence à cela, pouvait dire, concernant donc ce pharaon, au verset 17 de Romains, le chapitre 9, l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein. » Et là, c'est Dieu qui parle, « pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ce pharaon qui était, je dirais, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, parce que à l'époque où ça se passait, l'Égypte était la superpuissance d'alors, une superpuissance qui, si on doit comparer aujourd'hui, dépasse celle des États-Unis. Parce que si, dans ce qui s'est dit, si les États-Unis ont des armes qui peuvent détruire peut-être 20 fois le monde, il y a la Russie aussi qui a des armes qui peuvent détruire 8 fois le monde. Or, pour détruire le monde, on n'a pas besoin de détruire 20 fois, c'est une seule fois. Voyez, donc, dans ce sens, il y a quelqu'un en face qui dit, ben, vous pouvez le faire 20 fois, mais nous, on est capable de le faire une fois. Mais à l'époque, il n'y avait pas de concurrent en face de l'Égypte. L'Égypte était la superpuissance. Donc, Pharaon était l'homme le plus puissant qui existait à cette époque. Et parlant de lui, Dieu dit en fait, dans ma main, il est léger, il a à peine le poids d'une plume. C'est moi qui l'ai suscité à dessein, selon ma volonté. Voyez, pourquoi? Afin de montrer en lui ma puissance, pour que mon nom soit publié, n'est-ce pas, par toute la terre. Notre Dieu dirige toutes choses. Voyez, il est véritablement maître. Et aujourd'hui encore, voyez, nous pouvons affirmer la même chose. Voyez, malgré les événements, malgré la famine, les difficultés, enfin, des choses, tout ce qui se passe dans notre monde, nous avons la certitude que notre Dieu est aux commandes. Voyez, nous avons la certitude qu'il est le maître souverain, n'est-ce pas, dans ce monde. Et par rapport à nous-mêmes, parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons nos problèmes personnels que nous gérons, n'est-ce pas? Nous avons nos situations désagréables que nous gérons. Nos frères peuvent le savoir, ils peuvent ne pas le savoir. Voyez? Mais dans ces problèmes, dans ces situations, voyez? Même si des fois nous avons l'impression que le soleil de la présence de Dieu s'obscurcit, voyez? Rassurons-nous que notre Dieu est aux commandes. Et de savoir, de connaître, de savoir vraiment que le Dieu que nous adorons est le maître souverain, voyez, sur tout ce qui se passe, le maître souverain dans les événements de ce monde, le maître souverain dans notre vie, ça c'est une consolation pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu de la Bible est le Dieu de toute consolation. Voyez. Et dans ce sens, l'enfant de Dieu n'irait pas jusqu'à faire comme ce couple dont j'ai parlé tout à l'heure qui a perdu ses deux enfants. L'enfant de Dieu peut être tenté de faire ça ou peut prendre une décision pour dire, bon, si c'est ça, je ne viens plus, mais ça ne peut pas être pour longtemps ou pour toujours. L'enfant de Dieu même peut dire, mais je ne peux pas être en train d'adorer Dieu, ça peut arriver, et dire, bon, si c'est ça, j'arrête d'adorer ce Dieu. Mais il ne le fera pas pour toujours, il va se repentir, il va dire, mais j'ai été fou. Voyez, voyez, j'ai été complètement insensé. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout ce que Dieu lui fait, c'est pour sa gloire, mais c'est toujours pour notre bien. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi telle chose nous arrive, pourquoi nous vivons telle situation alors que nous aurions souhaité être dans telle situation, voyez, nous savons une chose, c'est qu'il le fait pour notre bien, pour sa gloire. Et ça, c'est une véritable consolation, n'est-ce pas, pour les enfants de Dieu. On n'a pas, même si on ne vient pas s'asseoir pour écouter l'Évangile, même si on est au loin, on peut tout vivre, tout peut arriver à tout le monde. Ouais. Wen parlait de ce couple-là, de cette famille qui, de retour des vacances, tout le monde est mort, n'est-ce pas? Et il n'y a pas longtemps, beaucoup de Français ont été fêter la Noël et tout ça en Égypte. Et au retour, c'était un crash d'avion et tout le monde était mort, n'est-ce pas? Et nous, les enfants de Dieu, nous savons que dire que Dieu est maître dans cet événement, ça c'est un scandale pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous, nous savons que nous ne méritons rien de la part de notre Dieu et que ne pas avoir telle chose que nous souhaiterions avoir, voyez, perdre tel membre de notre famille ou vivre telle situation d'adversité, c'est moins que ce que nous méritons de la part de Dieu. C'est moins que ce que nous méritons parce que nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? Notre Dieu est le Dieu de consolation. Et la connaissance donc que ce Dieu est souverain en toutes choses nous console. Ça, c'est le premier point par rapport à cette caractéristique de notre Dieu. Un deuxième point qui peut être retenu dans le même sens, et concernant le fait que le Dieu de la Bible, notre Dieu, est le Dieu de la consolation, c'est que notre salut est certain. Et la connaissance de l'enfant de Dieu, selon laquelle son salut est certain en Christ, est pour lui une véritable consolation. Et nous savons que notre salut ne dépend pas de nous-mêmes, mais que notre salut dépend uniquement de ce que Christ a fait à notre place, sur la croix. N'est-ce pas? Et lorsque l'enfant de Dieu pense à son salut, il ne pense pas personnellement à lui-même. Il ne pense pas à ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Il ne pense pas à ce qu'il doit faire ou à ce qu'il ne doit pas faire. Pour lui, la question ne se pose pas dans ces termes-là. Quand il pense à son salut, il pense à ce que le Fils éternel de Dieu a fait, n'est-ce pas, à sa place. Et il se rappelle ce que ce Fils éternel de Dieu, dans les jours de sa chair, pouvait dire concernant ceux pour qui il était venu pour mourir, ceux qu'il était venu sauver. Et dans Jean 10, au verset 10, voyez, le Seigneur Jésus-Christ dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Voilà le but de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ici, moi, je suis venu, c'est pour que les brebis aient la vie et pas une vie au rabais, mais cette vie dans l'abondance. Et lorsque nous avançons un peu, que nous allons au verset 28, par exemple, même avant un peu, au verset à partir du verset 26, le Seigneur Jésus dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Oui. Les enfants de Dieu sont les brebis de Dieu, les brebis du Seigneur Jésus-Christ, et leur salut est certain parce que le Seigneur l'a accompli de façon efficace. Même eux-mêmes ne peuvent pas s'arracher de la main du Seigneur. Il dit, personne, ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Notre péché d'aujourd'hui, ou de demain, ou d'hier, ne peut pas nous arracher de la main du Seigneur si nous sommes véritablement à lui. Pourquoi? Parce que notre salut ne dépend pas de notre vie, mais dépend de ce que Christ a fait. Même sous l'évangile de la grâce, on est parfois tenté de glisser. Vous voyez? D'un côté comme de l'autre. L'évangile ne nous encourage pas à vivre dans le péché. Et, mais l'activisme ne peut pas non plus être la base sur laquelle Dieu peut rester pour sauver quelqu'un. Et, quand Dieu parle du salut, il ne regarde pas aux hommes, mais il regarde à son Fils et ce que son Fils a fait, n'est-ce pas? Notre salut est certain, pourquoi? Parce qu'il a été accompli par le Fils de Dieu, il a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que nous ne vivons pas tous les jours dans la pleine conscience de ce salut que nous avons. Voyez? Il est vrai que lorsque nous regardons notre vie, voyez, nous y voyons encore le péché. Lorsque nous regardons notre vie, voyez, nous voyons que à bien des égards, elle doit déplaire à Dieu. Lorsque nous regardons notre vie, voyez, nous nous demandons, mais comment peut-il se faire que Dieu nous aime? Mais en fait, il nous aime. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un accepterait peut-être de mourir pour un homme de bien. Mais lorsque nous étions sans force, ça c'est ce que disent les Écritures, Christ est venu mourir pour qui? Pour ceux qui sont moyennement pécheurs, non, pour les impies. Lorsque nous étions sans force, il est venu mourir pour les impies. N'est-ce pas? Oui. Donc, dit, mais est-ce que ma vie peut plaire à Dieu? Non. Dans ce sens-là, ma vie ne peut pas plaire à Dieu. Mais la vie que Dieu regarde n'est pas la mienne, mais la vie de Christ. Et là, la satisfaction est totale. Oui. Et la vie qui peut plaire à Dieu, c'est la vie de Christ en moi. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, vivre pour lui, c'est Christ, n'est-ce pas? Si je veux déconnecter une certaine vie que je mènerai de la vie de Christ, elle ne plairait jamais à Dieu. Voyez? Parce que même nos meilleures œuvres ne sont qu'une pourriture aux yeux de ce Dieu-là. Voyez? Notre salut est certain. Et cela nous rassure, cela nous console. C'est pour ça que il nous faut quotidiennement regarder à la croix. Parce que la certitude du salut, c'est là, n'est-ce pas? Christ a accompli parfaitement cette œuvre de salut et c'est à la croix que nous avons à regarder. Pas dans nos œuvres, pas dans nos sentiments, pas dans nos émotions. Alors aujourd'hui, je vois vraiment que eh bien, Dieu m'aime. Et demain, bon, ça ne va pas, je vois que Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est les émotions, c'est les sentiments. Nous sommes changeants tous les jours. Et si nous devons regarder à ça, un jour nous serons sauvés, un autre jour nous ne le serons pas. D'ailleurs, je dirais une heure nous serons sauvés, l'heure d'après, c'est la déprime parce qu'on n'est plus sauvés. Non, ce n'est pas sur cette base-là, ce n'est pas sur nos sentiments, ce n'est pas sur le regard que nous avons sur nous-mêmes, ce n'est pas sur nos expériences, même si c'est des expériences extraordinaires. Non, mais la base de notre salut, c'est ce que Christ a fait à notre place et pas ces choses-là. Donc, nous devons veiller à ne pas glisser sur une fausse base lorsqu'il s'agit du salut. N'est-ce pas? Voyez? L'Église la meilleure ne peut rien faire pour notre salut. Le prédicateur le plus fidèle ne peut rien faire pour notre salut. Christ a tout fait, n'est-ce pas, pour le salut de son peuple. Et ceux qui basent leur confiance en lui ne seront jamais déçus. Et c'est là la consolation pour l'enfant de Dieu. N'est-ce pas? De connaître que notre salut est certain parce que Christ l'a accompli, ça c'est une consolation pour les enfants de Dieu. Le Dieu de la Bible est le Dieu de toute consolation. Et un troisième point par rapport à cette caractéristique de notre Dieu qui est le Dieu de la consolation. Et une troisième chose qui console l'enfant de Dieu, voyez, c'est la connaissance que Dieu est toujours avec lui. Dieu est toujours avec ceux qui lui appartiennent. Et ça console véritablement les enfants de Dieu. La dernière phrase de l'Évangile selon Matthieu nous dit, nous avons là une promesse dans ce sens-là où le Seigneur assurait ses disciples de sa présence continue avec eux. Il dit, « Et voici ». Ça, c'est de la démonstration, c'est pas. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. n'a pas dit, mais il n'a même pas dit, je serai avec vous. Et voici, je suis déjà avec vous. Il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce que nous lisons donc là? La promesse du Seigneur d'être avec nous, si nous lui appartenons. Sa promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Or, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Et il n'a pas dit, je serai avec vous lorsque vous vivez de la manière qui soit conforme à l'Évangile. Et je serai avec vous lorsque vous priez tous les jours. Je serai avec vous lorsque vous lisez quotidiennement les Écritures. Le Seigneur n'a pas dit ça. C'est une promesse qui est inconditionnelle pour ceux qui lui appartiennent. N'est-ce pas? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle que soit la situation dans laquelle nous passons, lui dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y avait ces deux disciples-là qui quittaient Jérusalem et se rendaient vers Emmaüs. Le Seigneur a dit, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que j'ai faite s'accomplisse, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Mais eux, ils se sont dit, cette affaire, c'est dommage, c'est fini. Nous comptions tellement sur lui. Voyez, nous espérions que c'est lui qui serait qui délivrerait Israël. Mais depuis 3 jours, il est mort et plus rien. Ben, il faut peut-être que nous retournions à nos affaires. Ils allaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ils discutaient de ça. Nous avons vu le Seigneur les rejoindre. N'est-ce pas? Pierre, qui doit aussi attendre, on le retrouve avec son filet, c'est pour aller pêcher. Le Seigneur ne les a pas abandonnés pour cela. N'est-ce pas? Nous avons l'assurance de la présence de notre Dieu. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Or, lorsque nous passons par des situations pas faciles, et nous avons tendance à afficher des attitudes qui ressemblent à des attitudes de gens qui n'ont pas d'espérance. Et nous avons tel souci et nous nous agrippons à ça, comme si le Seigneur n'a jamais demandé que nous nous agrippions à nos soucis. Nous avons telle préoccupation et c'est ça qui remplit nos pensées, comme si le Seigneur n'a jamais demandé que nos préoccupations remplissent nos pensées. Non. Ce que le Seigneur veut, c'est que lui remplisse nos pensées. Ce qu'il veut, c'est que lui remplisse notre vie et pas nos soucis. Ça, c'est des choses dont lui s'occupe. N'est-ce pas? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. N'est-ce pas? Mais nous, dans la faiblesse de notre chair, nous nous occupons des choses dont nous ne devons pas nous occuper. Nous nous occupons des choses que Dieu ne nous a jamais confiées. Nous nous occupons des choses, en fait, qui sont du domaine de Dieu. Et nous laissons les choses dont nous devons nous occuper. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce dont nous devons nous occuper. Parce que c'est là ce que le Seigneur, l'exhortation qu'il nous a faite. De chercher, voyez, à croître chaque jour davantage dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Dieu. Mais le reste, il dit le reste, c'est moi qui m'en occupe. Parce que par vos soucis, est-ce que vous pouvez changer une situation? C'est ça ce que le Seigneur a dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne, n'est-ce pas? Personne. Des oiseaux qui ne sont pas aimés comme Dieu vous aime, Dieu s'en occupe. Des fleurs qui vont être coupées et jetées au feu sont habillées comme jamais homme n'a été habillé. Parce que Dieu dit, mais même Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme ces lys-là qu'on coupe et qu'on jette au feu. Et pourquoi se préoccuper de ceci ou de cela? Ou aller même jusqu'à peut-être se dire, mais pourquoi la situation de tel est comme ça et moi je suis toujours au stade où j'en suis? Non, mes amis, Dieu prend soin de nous. Il est toujours avec nous. Et ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Je ne sais pas avec qui je discutais. Et non, bon, c'était avec Jean-Claude, mais il n'est pas là. En Afrique, par exemple, dans une famille, tant que tu n'as pas un garçon, un enfant, un garçon, c'est un scandale. Alors, si ta femme ne fait que chaque fois qu'elle accouche, si c'est des filles, il faut continuer. Jusqu'à ce que tu aies un garçon, là, ça va. Et des gens sont allés jusqu'à faire, par exemple, 10 enfants parce qu'ils cherchaient toujours le garçon. Et depuis quelques temps, déjà je le voyais, mais depuis quelques temps où je, enfin 2 ou 3 fois déjà où j'ai passé la nuit dans les rues de Lyon aller à la rencontre des SDF, je dis mais si je dois avoir un garçon qui va peut-être finir comme ça, autant ne pas en avoir. Parce que j'ai vu un monsieur, le pied il est pourri. Déjà à 5 mètres, ça dégage. Et il est là, il ne bouge pas, sans domicile, et il ne veut pas se faire soigner. Il est sans abri, il est dans le froid, pour tous ses besoins, il le fait sans bouger, et il est là. Alors si moi je dois avoir un garçon qui va finir comme ça, autant ne pas en avoir, par exemple. Or, qui sait peut-être, je ne sais pas, si les parents de ce monsieur, tout ce qu'ils ont fait peut-être pour avoir ce garçon, j'en sais rien, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu veut le meilleur pour nous-mêmes. Et les illustrations dans ce sens sont légion. Et si une porte se ferme, c'est peut-être pour qu'une autre s'ouvre, n'est-ce pas? Et si une porte se ferme, vraiment, et que même une autre ne s'ouvre pas, c'est parce que ce n'est pas la bonne porte, la meilleure porte pour nous, n'est-ce pas? Et lorsque nous nous éloignons de la bonne réflexion, lorsque nous nous éloignons de ce que Dieu veut, lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu pour son peuple, lorsque nous nous éloignons de la pensée de la gloire de Dieu, rapidement nous pouvons glisser dans ces pensées-là. Où Azab disait, mais je portais envie aux insensés, en voyant la façon dont ils prospèrent. Tout leur va bien, mais moi, enfant de Dieu, rien ne me va. Et dit, là, lorsque j'ai pénétré dans le sanctuaire, j'ai réalisé combien j'étais insensé, parce que Dieu les met sur une pente. Pour leur ruine, n'est-ce pas? C'est une consolation pour nous de savoir que notre Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lorsque nous regardons un passage comme Ésaïe 43, nous voyons la même chose. Les hautes eaux, même si tu es dans les hautes eaux, moi je suis avec toi, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit les hautes eaux, tu vas les voir de loin. Même si tu es là-dedans, je suis avec toi. La présence de Dieu avec nous ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre des situations difficiles. Non, mais Dieu dit même dans ces situations difficiles, moi je suis avec vous. Et dans le même sens, il a promis, le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il enverrait son Saint-Esprit. Il y a Philippe qui est en train de faire cette étude-là sur la dernière semaine du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, non Philippe? Dans Jean, voilà, je crois qu'il va commencer bientôt Jean 16. Je suis persuadé qu'il vous en parlera plus en détail. Mais lorsque nous allons regarder Jean, le chapitre 16, par exemple, à partir du verset 7, il dit, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » N'est-ce pas? Là aussi, le Seigneur a promis qu'il enverra le Consolateur, le Saint-Esprit, pour être avec nous. Là aussi, c'est une consolation pour l'enfant de Dieu. Mais toujours dans le même sens, il y a encore une autre certitude qui est consolatrice. C'est que Jésus-Christ, même à cette heure-ci, à la droite de son Père, est en train d'intercéder. Beaucoup de personnes comme moi sont en chair ici ou là, et mais si un seul cœur doit être touché véritablement par un message, je ne dis pas sous le coup d'une émotion. Une émotion, quelqu'un dans le monde, il y a plein d'orateurs qui peuvent parler et créer des émotions. Mais si un cœur doit être touché à salut, voyez, par la parole de Dieu, voyez, c'est parce que Dieu envoie son Saint-Esprit et c'est parce que Christ, à la droite de Dieu, intercède pour ceux qui lui appartiennent, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il dit dans Romains, le chapitre 8, au verset 30, 34, nous lisons, bien plus, Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire que nos prières en elles-mêmes ne peuvent, n'ont aucune efficacité, mais il y a Christ qui est à la droite de son Père et qui intercède pour son peuple. C'est pour cela que aujourd'hui encore, il sauve efficacement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant. Pour faire quoi? Pour intercéder en leur faveur. Oui. Donc le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui à la droite de son Père, intercède pour nous. Voilà autant d'éléments, voyez, concernant cette présence de Dieu avec nous qui console l'enfant de Dieu, voyez, qui nous soulage. Voyez. Et lorsque sur l'église de Thessalonique, il y avait eu quelques décès, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? Il dit, il ne faut pas que vous vous affligiez comme ceux qui sont sans espérance. Voyez. Pourquoi? Parce que ceux-là n'ont fait que nous devancer. Et à l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas les devancer. Mais lorsque il y aura le signal, lorsque la trompette va retentir, tous ceux-là, voyez, nous allons, ensemble avec eux, nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Et qu'est-ce qu'il dit? Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voyez. Le véritable consolateur, la véritable consolation, c'est en Dieu que nous avons. Voyez. Le Seigneur Jésus-Christ prend soin de nous, n'est-ce pas? Pourquoi alors être accablé en regardant les événements dans ce monde? J'irai même jusqu'à dire, pourquoi être accablé en regardant le péché dans notre vie? Oui. J'ai regardé ce mot un peu accablé aussi dans le dictionnaire pour voir sa signification. C'est le fait d'être écrasé sous un poids. Pourquoi alors être accablé sous son péché? Pourquoi faire comme ce petit-là qui a chuté et qui s'est levé, qui a passé tout le temps à pleurer et à regarder l'objet qui l'a fait chuter? Vous voyez, nous chutons et la solution de sagesse n'est pas de rester là, de nous larmoyer, de nous lamenter sur notre chute, mais de regarder à Christ. Pourquoi? Parce que c'est en lui que nous avons notre consolation. Oui. Pourquoi alors être accablé en regardant le péché dans notre vie, en regardant ces événements du monde? Non, nous avons à nous réfugier en Christ. Parce que lui est à la droite de son Père et il intercède pour nous. Oui. Il intercède pour nous. Et ce n'est pas le fait que nous déplorions nos péchés, par exemple, qui vont faire que nous n'allons plus pécher. Pour que nous vivions une vie qui plaise à Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire avoir les regards sur la terre, sur soi-même. Mais ça veut dire avoir les regards sur Christ. N'est-ce pas? C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous fortifie. Mes amis, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous adorons, est le Dieu de la consolation. Et la connaissance pour nous que ce Dieu est maître dans tous les événements qui se passent, ça nous rassure. J'avais lu un traité il y a quelques années au sujet de l'attitude d'un petit enfant dont le père était pilote et qui était à bord d'un vol, je ne sais plus sur quelle ligne. Il était dans l'avion et il semblait qu'un crash menaçait. Il fallait attacher ses ceintures, il fallait prendre beaucoup de dispositions. Et l'enfant, lui, dormait, on l'a réveillé. Quand on l'a réveillé, il s'est levé et il est allé dans la cabine de pilotage pour voir qui est aux commandes. Il a vu que c'est son père. Et quand il a vu que c'est son père, lui, il est retourné à sa place, mais il n'a pas les dispositions que tout le monde est en train de... L'agitation, lui, il ne s'est pas mis dans cette agitation. Mais il s'est assis et il a continué comme s'il voulait dormir. Pourquoi? Parce que lui, il avait confiance en son père. Ça, c'est l'attitude que l'enfant de Dieu développe à l'égard de Dieu. Pour savoir, attends, qui est aux commandes dans cette affaire? Ah, c'est Dieu? Bon, ça va. Ça nous rassure. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Oh, c'est lui qui est aux commandes. Et, n'est-ce pas? Nous savons que tous les événements du monde sont dans sa main et que lui n'en est pas tant. Et nous avons la certitude que notre salut est accompli par Christ Et nous avons aussi la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais, mais qu'il est toujours avec nous. Est-ce que ça ne console pas? Oui, ça console. Alors, nous avons donc à nous tourner vers ce Dieu qui console véritablement. Que lui-même daigne nous accorder chaque jour la consolation qui est en Jésus-Christ. Amen.